C'est vrai, hein? On se sent vraiment en famille ce matin. Alors, nous continuons dans la lettre de Paul aux Romains et on arrive à la fin d'un bloc important de la lettre, les 5 premiers chapitres. Ça se peut qu'on fasse une pause. Mais aujourd'hui, c'est un message important qui s'intitule « À bien plus forte raison ». Mais d'abord, prions. Seigneur, dispose nos cœurs pour écouter ta parole, pour vraiment ouvrir nos cœurs à la grandeur de ton pardon, de ton amour, de ton salut. Et Père, quoi de mieux que de prier cette prière que tu nous as enseignée, Jésus, ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 Wow, oui, il y a encore des personnes qui arrivent, donc oui, Mimi, ne te gêne pas pour créer de la place pour les nouveaux qui arrivent là. Merci beaucoup. Oui. Alors récemment, j'étais dans un congrès missionnaire. Et on parlait de pays où c'était difficile aujourd'hui d'apporter l'Évangile et de nouvelles méthodes qui avaient été trouvées à l'aide de nouvelles technologies pour annoncer la bonne nouvelle et aussi pour comme suivre des nouveaux croyants. Et à un moment donné, le pays de la Russie est venu dans une liste qui était là. Et puis, l'animateur a dit, on va enlever la Russie de la liste parce qu'on sait que ce n'est pas une bonne place pour faire de la mission ces jours-ci. Et dans l'auditorium, il y a quand même un petit rire, comme quoi tout le monde comprenait et était d'accord avec ce que l'animateur disait. Il a dit ça en passant comme ça. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'on a raison de dire une telle chose, de penser cela concernant un pays comme la Russie? Évidemment, on sait ce qui se passe en Russie. Et je partageais le malaise de tout le monde par rapport à ce que ce pays est en train de faire actuellement. Mais je me questionnais, est-ce qu'en Russie, il n'y a pas des âmes, de nombreuses âmes qui ont besoin de l'Évangile comme ailleurs, comme à Ninive, dans le temps de Jonas? Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui témoignent de leur foi en Russie, comme partout ailleurs, et peut-être qu'ils luttent aussi pour la justice? Et est-ce qu'ils n'ont pas besoin de notre soutien? Ou bien est-ce qu'il faut les laisser tomber parce que c'est trop difficile, c'est trop dangereux? Ou peut-être on se dit, mais non, Dieu va retenir sa grâce sur ce pays qui fait le mal. En fait, c'est des questions que vous voyez qu'il faut répondre non. Oui, en tout cas, le message de ce matin dans Romains chapitre 5, c'est qu'aucun pays, aucune situation, même la Russie, aucun individu n'est exclu de l'offre de justification de Dieu qui vient par l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Aucun pays n'est exclu. Peut-être vous pensez à un autre pays qui vit des grosses difficultés actuellement. Personne, aucun individu n'est hors de portée de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Donc, c'est le résumé de ce que je vais dire. N'oubliez pas ce chant qu'on a mentionné dans un autre contexte. Oui, est-ce que Cheryl, tu cherches... Non, c'est bon. Ce chant, torrent d'amour et de grâce, hein, la croix de Jésus-Christ, c'est comme un gros fleuve d'amour qui a commencé à couler sur la terre et qui atteint toute personne. Cet amour est disponible pour toi, oui, toi, et pour toute autre personne, qui que tu sois, qui qu'elle soit. Quelle bonne nouvelle! Puis il y a des implications, parce qu'il faut que notre foi, il faut que notre cœur entre là par rapport à ce que notre tête, notre intelligence vient d'entendre. Alors, on va lire le texte maintenant. Et ça, c'est dans Romains 5, ceux qui ont leur Bible. Donc, c'est Romains, la première grosse épître. Et on est à partir du verset 12 de Romains chapitre 5. En fait, on ne va pas tout lire, on va lire le chapitre 12. Et ensuite, les versets 15, 16 et 17. Oui, il manque un petit 1, là. 15 à 17. Le point veut dire, on fait un saut. Et le tiret veut dire, on lit tout. Alors, est-ce que j'ai raison? Oui. Alors, Romains 5, 12, après ça, 15, 16, 17. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché. Maintenant, le verset 15. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a bien plus abondamment été déversé sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un très grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Ici, Paul fait un genre de raisonnement et on va le décortiquer un peu plus tard. Alors, il est assez clair, même s'il y a des détails difficiles à comprendre, on va se concentrer sur le raisonnement qui, lui, est quand même vraiment bien fait. Et Paul était un argumentateur. Et en fait, on va se concentrer en particulier sur deux vérités importantes qu'il dit ici, qui sont quand même assez claires. Les dégâts causés par Adam, par l'erreur d'Adam, sont grands. Okay? C'est quelque chose qu'il semble dire de manière assez souvent dans ce passage. Les dégâts causés par l'erreur d'Adam sont grands. Puis la deuxième vérité, les bienfaits apportés par l'œuvre de Christ sont mille fois plus grands. Okay? C'est pas compliqué, là. Alors, oui, les dégâts causés par Adam sont grands, mais Paul insiste, les bienfaits apportés par Jésus-Christ sont mille fois plus grands. Et il faut qu'on entre dans cette réalité. Alors, d'abord, les dégâts causés par Adam, oui, on va en parler. Malheureusement, il faut qu'on en parle. Et on en a déjà parlé, mais c'est ce premier verset qu'on a lu, le verset 12, qui, en fait, est très célèbre parce qu'il est difficile à traduire. Et ça dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes. Situation dans laquelle tous ont péché. Donc, en fait, en grec, c'est ce qui est ce qui est traduit ici, situation dans laquelle, c'est FHO en grec. Et je ne veux pas vous endormir avec le grec biblique, mais c'est très difficile à traduire. Et saint Augustin, il a traduit ça « En qui tous ont péché ?» Enfin, ce n'est pas lui, c'est la Bible latine qu'il utilisait. Et ça a donné lieu à la doctrine de la tâche originelle qui a donné lieu par la suite au baptême des bébés. On a dit, bien, tous les bébés ont la culpabilité d'Adam parce que tous les humains ont péché, reçoivent la culpabilité du péché d'Adam. Et donc, il faut les baptiser parce qu'ils sont déjà condamnés à l'enfer dès qu'ils naissent. Alors, c'est une doctrine que nous n'enseignons pas dans le protestantisme, dans le mouvement évangélique. Et en fait, on se rend compte qu'il faut plutôt traduire « situation dans laquelle », qui veut dire qu'on hérite des premiers humains qui étaient créés pour une relation avec Dieu, mais qui ont décidé de ne pas marcher dedans. On hérite la mort spirituelle, qui est une séparation d'avec Dieu. Et c'est dans cette situation qu'on est né et puis que chaque être humain va commencer à pécher à un moment donné de sa vie. Alors, voilà pour la question de la traduction, pour ceux que ça intéresse. Et, ben, c'est important, mais disons, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la faute d'Adam, ce que Paul dit, c'est on peut être tellement assommé, tellement troublé par la faute d'Adam et ses conséquences, parce qu'on les voit tout autour de nous et en nous, le péché, la mort et le risque que courent tellement de gens autour de nous d'aller au jugement et à la séparation éternelle avec Dieu, qu'on se dit, mais l'œuvre d'Adam est tellement grande. Mais non, c'est pas là qu'il faut s'arrêter. C'est vrai que c'est une doctrine importante, et voici ce que dit la confession de foi de nos églises de l'Alliance, qui reprend ce que dit Romains 5, 12 et d'autres passages aussi. C'est important d'être au courant que l'humanité fut originellement créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sa désobéissance entraîna sa chute et elle encourut ainsi la mort physique et spirituelle. Tous les humains naissent avec une nature pécheresse, sont séparés de la vie de Dieu et... Puis la bonne nouvelle arrive, puis il y a d'autres points de la confession de foi qui développent ça. Ils sont sauvés uniquement par l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, les dégâts causés par Adam, ils sont là. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a une grosse différence entre qu'est-ce que les ancêtres de l'humanité ont causé et qu'est-ce que Jésus a fait. Il faut dire que la manière que c'est expliqué dans Genèse chapitre 3, on parle d'une faute, on parle d'une erreur, on parle de quelque chose que si on demande à Adam aujourd'hui, es-tu fier de ton œuvre? Et il dit, j'aurais tellement préféré ne pas avoir fait cette erreur. Enfin, Adam et Ève, ils étaient deux. Mais c'est vraiment une gaffe dont on parle ici, une gaffe. Oui, il y a eu quelque chose de délibéré là-dedans, une genre de rébellion, quelque chose qui les a attirés loin de Dieu. Mais c'est une erreur. C'est un peu comme... un peu comme... OK, on est plusieurs dans une maison, et le petit frère, et on est en début juillet, le petit frère laisse la moustiquaire ouverte, soit parce qu'il oublie, soit pour voir qu'est-ce que ça donne, ou peut-être parce que, justement, ses parents lui ont dit de ne pas le faire. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive si je la laisse ouverte. Puis là, les mouches noires rentrent, les mouches, les autres mouches aussi, les moustiques et les guêpes en plus. Et les coccinelles, pourquoi pas? Ils vont dans toute la maison. Et c'est ce genre d'erreur, ce genre de faute qu'on attribue à Adam. Adam, lui, a été pogné avec les conséquences. Les guêpes l'ont tué, lui aussi. Les mêmes guêpes qui nous assomment et qui nous tuent. On finit par mettre fin à sa vie aussi. Il a même un fils qui a assassiné un autre fils. Vous connaissez l'histoire de Cain et Abel. Et donc, tout ça pour dire que... c'est juste pour préparer le fait que l'œuvre d'Adam, elle ne se compare pas à celle que Jésus a faite pour nous. Et Adam n'a aucune solution à nous apporter. En plus, la Bible ne nous dit pas grand-chose sur sa personnalité. Et même les anthropologues qui regardent la Bible disent « Oui, c'est vrai, c'est vrai ». On voit que l'humanité, on a une origine commune, on est une espèce unique. Tous les humains font partie de l'espèce humaine. On a une origine commune, mais où est-ce que ça se trouve dans l'origine, dans la préhistoire de l'humanité? C'est difficile à mettre le doigt, mais c'est pas si grave au fond parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a réglé le problème et beaucoup plus. Et c'est là où on veut en venir maintenant, c'est la deuxième vérité sur laquelle Paul insiste ici, c'est que les bienfaits apportés par l'œuvre de Christ sont mille fois plus grands. Merci pour le « Amen ». J'ai entendu un « Amen » et je l'apprécie. Alors, Paul utilise deux fois l'expression « à plus forte raison ». Une autre expression grecque, excusez-moi, mais j'enseignais le grec avant, et c'est « polo malon », « à plus forte raison ». C'est un argument, une sorte d'argument qu'en fait, on utilise souvent dans la vraie vie. C'est pour comparer... On compare deux situations de forces différentes ou de poids, de valeurs différentes et ça nous aide à comme, réaliser que, OK, la conclusion est tellement sûre et certaine que je peux agir. Donc, je vais donner des exemples de ce type d'argument. Que les professeurs de français disent l'argument a fortiori. Vous avez peut-être déjà entendu ça à l'école. Alors, moi, quand j'étais ado, je jouais au ping-pong. Et je jouais au ping-pong avec mes amis. D'ailleurs, j'ai un ami ici qui joue au ping-pong avec moi quand j'étais ado. Moi, je pensais que c'est toi qui me battais. Mais écoute, je vais profiter de ce que tu viens de dire pour mon exemple. Alors, on faisait des raisonnements parce qu'on était compétitifs au ping-pong. Et je pouvais faire un raisonnement, dire comme, OK, bien, si Vincent a battu Simon au ping-pong, c'est sûr que moi, Marc, je vais battre Simon moi aussi. OK, ça, c'est un argument à plus forte raison. On pourrait le dire comme Paul, si Vincent il a battu Simon, à plus forte raison, Marc va gagner contre Simon. C'est un peu prétentieux comme... Est-ce que vous me suivez là? C'est que moi, je me dis, c'est sûr que je suis meilleur que Vincent. C'est peut-être pas vrai, mais c'est dans ma tête, c'est vrai. Et donc, je dis, si Vincent est meilleur que Simon, bien, c'est sûr que je vais battre Simon, à plus forte raison. C'est comme ça que ça marche. Et on raisonne comme ça tout le temps. Hein? Peut-être tu te dis, ben mon ami une telle vient de réussir son permis de conduire, je devrais être capable moi aussi. et peut-être que ce n'est pas justifié, mais c'est le genre de raisonnement qu'on fait. Je vais vous en donner un autre. Et ici, c'est Shannon que je vais mettre sur la sellette par rapport au demi-marathon. Et ici, oui, inquiète-toi pas. Ce n'est pas de la prétention, c'est plutôt de l'humilité cette fois-ci. Shannon, elle a réussi son marathon, n'est-ce pas? Oui, on l'a fêté tantôt. Et elle nous a expliqué qu'elle avait des défis de santé qu'elle a dû surmonter dans son entraînement et elle a réussi. Donc, elle pourrait essayer de convaincre, mettons, quelqu'un parmi nous, comme Chantal, par exemple, et dire « Chantal, moi qui j'ai réussi mon demi-marathon, mon défi personnel, malgré mes problèmes de santé que tu connais, à bien plus forte raison, est-ce que toi, tu peux faire face au défi que tu vis qui est plus petit, mettons. » Vous comprenez, c'est le même genre de raisonnement. Et c'est ça que Paul utilise ici, à bien plus forte raison. Alors, les bienfaits que Jésus apporte, mon temps, il faut avance vite. Paul part un peu dans beaucoup de sens ici, mais il dit, voilà, vous les chrétiens, soyez vraiment enthousiastes et convaincus par rapport à l'œuvre de Jésus. Premièrement, c'est bien meilleur que celle d'Adam, qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment l'œuvre d'Adam, c'est l'œuvre du péché et de la mort que Adam, c'est le gars qui a laissé la moustiquaire ouverte. C'est bien plus grand. À cause du bien que Jésus accomplit à travers son œuvre. Les résultats sont bien plus grands. On parle du salut éternel. Il amène des gens comme toi et moi dans la communion des divinités, de Dieu et de ses anges dans l'éternité. C'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que cette vie noire dans laquelle on était perdu dans le péché. Deuxièmement, Jésus est présent personnellement quand il vient avec son œuvre. Comme j'ai dit, Adam, il n'est pas là. Jésus, quand il amène le salut, c'est lui-même qui vient vivre en toi. Il est là pour te coacher, pour te donner la puissance de vivre et te rappeler, écoute, Dieu t'aime, t'es tombé, relève-toi. T'es capable. Troisièmement, c'est meilleur par le fait que Jésus, on le connaît. Hein, comme j'ai dit, Adam, il y a quelques versets qui le mentionnent dans la Bible. Et Jésus, nous avons 4 évangiles, nous avons la Bible tout entière qui parle de lui. Et on peut apprendre à le connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il est là, on le connaît. Et on peut dire aussi, c'est une insistance de Paul, son salut est accessible pour tous. Son salut est accessible pour tous. Alors, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai que l'accessibilité du salut de Jésus est plus que la condamnation amenée par le péché et la mort? Jésus lui-même, après tout, a dit, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, la question est vraiment bonne. Parce qu'il ajoute, « Peu sont ceux qui trouvent le chemin de la vie. » Donc, il y a un mystère ici qu'il faut accepter. Là où l'accessibilité du salut est tellement plus grande que le péché, c'est que le péché et la mort sont des forces impersonnelles qui vivent en nous, même un peu contre notre gré. Hein? Paul, dans le chapitre 7, va dire, « Je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable. » Il y a comme une force en moi qui me retient puis qui me fait faire ce que je ne veux pas faire. La mort, on peut en parler aussi. Et qu'on voudrait vivre éternellement. Et il y a même des humains qui disent, je suis en train de travailler sur de la technologie pour que l'homme vive éternellement. Et puis, ils vont quand même finir par mourir, ces pauvres personnes. En même temps, le salut, lui, c'est différent. C'est Jésus qui est là, personnellement et en puissance, qui frappe à la porte de chaque être humain pour dire, laisse-moi entrer. En fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut vivre et ce qu'il faut communiquer à nos amis, c'est qu'ils sont déjà potentiellement des héritiers millionnaires. C'est comme ça que moi je comprends l'accessibilité tellement grande de l'Évangile par rapport à l'aveuglement du péché. C'est que c'est comme un petit peu, suivez mon exemple, je viens d'hériter d'un héritage de 20 millions de dollars, un ancêtre que j'ai comme oublié. Pas un ancêtre, mais une parenté qui vient de mourir et il me déclare héritier pour 20 millions. Ça peut être toi. Ouais. Imagine! Puis toi, tu es comme, ben, je vais parler de moi là, je suis quelque part loin de chez nous. Mon cellulaire est dans ma poche et malheureusement, il est éteint. Puis là, ma femme, Cheryl, vient de recevoir l'appel comme quoi, hey, ton mari, il vient d'hériter de 20 millions de dollars, mais il faut qu'il appelle, puis qu'on prenne rendez-vous pour qu'il signe des papiers. Et moi, elle appelle, mais mon téléphone il est éteint. Alors, je dirais, je suis déjà riche, mais dans ma tête à moi, je suis encore pauvre, je suis encore convaincu d'être pauvre parce que mon téléphone il est éteint. Et voilà comment on doit voir chaque être humain autour de nous potentiellement riche, Jésus qui frappe à sa porte, puis nous, avec le Saint-Esprit, qui disons à nos amis, ouvre donc ton cellulaire pour recevoir l'appel et aller signer les papiers. C'est un exemple peut-être un peu limité, mais c'est ce que Paul dit ici, que vraiment, nous voulons célébrer la puissance supérieure de ce salut, de cette nouvelle vie que Jésus offre à chaque individu de chaque époque et de chaque place et de chaque pays. Une chose qui est importante aussi, c'est que si c'est pour tout le monde, c'est pour moi aussi. Puis ça, j'espère que tu m'écoutes maintenant. C'est vraiment important d'être capable de passer de tous à « ben c'est pour moi aussi ». Vous savez, le verset 16 dit « il y a un acquittement du péché qu'apporte Jésus après un très grand nombre de fautes ». Alors, c'est le très grand nombre de fautes de tous, mais c'est aussi le très grand nombre de fautes dans ma vie, dans ta vie. Et avant que tu entendes parler de Jésus, et après aussi. Peut-être que tu es déçu, peut-être tu as manqué de foi ou tu as commis une gaffe, ou peut-être ton cœur a été dur dans une situation où tu devais montrer de l'amour. Après un très grand nombre de fautes, il y a toujours le seul et même acquittement. Et c'est Jésus qui l'apporte. Amen. Alors, ne sois jamais découragé. Cet acquittement, cette justification, elle est pour toi. Répétez après moi. Le salut, il est pour moi. Le salut, il est pour moi. Oui. Et Martin Luther avait écrit concernant un autre passage, Galates 2:20, qui dit, Jésus, c'est, s'est sacrifié, il s'est donné lui-même pour moi, il m'a aimé, il s'est donné lui-même pour moi. Il a écrit ceci, « Il faut que ta lecture... » Il parlait à n'importe quel chrétien ici. « Il faut que ta lecture de ce verset accentue fortement ce mot « moi », ces mots « pour moi » et que tu t'habitues à faire tien ce « moi » d'une foi assurée et à te l'appliquer à toi-même. Ne doute pas d'être toi aussi du nombre de ceux qui disent « moi ». Es-tu capable de dire « moi » ? Moi, oui, oui. Et si tu n'es pas capable de dire « moi », tu es à la bonne place aujourd'hui pour vraiment entendre que oui, ça s'applique à toi, ma sœur, ça s'applique à toi, mon frère. Si ça s'applique à Paul, si ça s'applique à tous, ça s'applique à moi. Et si ça s'applique à moi, ben ça s'applique à tous mes amis, à tous. Il n'y a aucun pays exclu, même pas la Russie. Et je dirais même pas notre cher Québec, que Dieu nous appelle, à être des témoins, des persévérants. On va aller voter demain. Et on aime notre Québec dans lequel Dieu nous a placés pour être des témoins et pour dire à nos amis et nos familles, il n'y a pas personne qui est exclu. Jésus frappe à ta porte. On ne lâche pas. Amen. Et vous qui êtes des nouveaux Québécois, là, hein, les parents, pas les parents, mais les partis politiques, ils disent ça. Non, 50 000 max. Non, ça peut aller jusqu'à 80 000. Mais vous, là, qui êtes ici ce matin, dans l'Oasis, vous êtes des missionnaires envoyés au Québec. Et vous êtes ici pour communiquer la bonne nouvelle parmi vos voisins, dans votre travail. Je sais que le pasteur précédent de notre église, Michel Houl, il m'avait dit une fois, mais des fois, dans les milieux de travail, les anciens Québécois, ils vont plus facilement écouter un Africain ou un Antillais parler de Dieu qu'un Québécois. Puis c'est vrai, des fois, quand tu te vois, mais toi, tu es Québécois, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu fais partie d'une secte? Je ne t'écoute plus. Mais on dirait que quand c'est quelqu'un qui vient d'arriver, raconte-nous d'où tu viens. Et qui tu es, et il y a des opportunités que vous devez saisir. Et on va prier pour vous et on va travailler ensemble. Et allez voter demain, ceux qui sont inscrits. Là, il faut conclure. Oups. OK, conclusion. Aucun pays, aucune situation, aucun individu n'est exclu de l'offre de justification de Dieu qui vient par l'Évangile. Personne n'est hors de portée de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Amen?
Amen.
OK, c'est bon. Tout le monde peut recevoir cette nouvelle vie. Laissons-nous encourager ce matin, mobilisés par Dieu, pour servir Dieu et les autres avec encore plus de joie et de confiance. Et préparons nos cœurs pour ce repas auquel Jésus nous invite ce matin. Avant de participer, je vous invite à faire trois choses que nous allons faire en prière maintenant. De dire à Dieu, du fond de mon cœur, je crois que la promesse s'applique à moi. Oui, Dieu, je le crois. C'est pas parce que je me prends pour la dame de cœur ou le roi de pique. C'est parce que à plus forte raison, le sacrifice de Jésus s'applique à tout le monde. Donc, il faut que ça m'inclue. Deuxièmement, ça va s'appliquer à quelqu'un que tu vas mettre sur mon chemin ou dans mes pensées cette semaine. Même peut-être quelqu'un qui semble si fermé. Troisièmement, Ça s'applique à chaque personne qui est ici. Et donc, dans l'amour, l'accueil et le pardon, parfois aussi, on s'accueille les uns les autres comme des héritiers. Tout le monde de cette grâce que personne ne mérite, puis que Jésus nous donne. Alors, je vous invite à prier avec moi maintenant. Et ceux qui veulent peuvent se lever ou lever leurs mains au ciel. On va prier ensemble et vraiment, tournez vos cœurs vers notre bon Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ces arguments à plus forte raison. Que Jésus est tellement plus grand que Adam, mais surtout tellement plus grand que le péché et que la mort. Et c'est difficile à comprendre, mais à cause de ton amour, nous voulons le recevoir par la foi et le vivre. Oui, mon Dieu, je veux l'appliquer à moi-même. Merci pour ton pardon qui est pour moi. Et aide-moi à ce que ça descende profondément dans mon cœur pour que je puisse dire, je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon pardon et de mon salut éternel. Mais je dois grandir dans l'amour aussi, Seigneur, envers les gens autour de moi. Que je ne perde jamais courage pour prier et témoigner et aimer la personne que tu mets sur mon chemin ou que tu ramènes à mon souvenir. Et finalement, donne-moi d'aimer tous ceux qui viennent à l'Oasis comme étant de la royauté, soit un prince ou une princesse héritière du grand roi ou une princesse ou un prince potentiel, moyennant qu'elle ouvre son cœur à Christ. Alors, donne-nous de nous accueillir mutuellement et de pardonner aussi si quelqu'un nous a froissés ou nous a blessés. Car personne ne mérite ce salut tellement grand. Toutes ces choses, nous prions au nom de Christ. Amen.